Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal au micro Lievin Bouinga. D'abord les titres. L'enclave de Kamandingité, désormais sous contrôle du M23, cette localité située sur les rives du lac Édouard, à 10 km de Kanyabayonga, est occupée par ces rebelles depuis hier dimanche. Mais quelle est l'importance stratégique et économique de cette localité du Nord Kivu? Réponse dans ce journal. Nous ferons aussi un arrêt aux frontières des quartiers Eradi et Ngafani dans la commune de Mongafula, c'est ici à Kinshasa. Ces habitants vivent dans le désarroi total depuis les pluies du 19 octobre dernier. Plus d'eau potable ni électricité, ils lancent un SOS à qui veut les entendre. 28 ans après l'assassinat de l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Muzihirwa Mwene Ngabo Christophe, en plein centre-ville de Nyawera, la cause de sa béatification est en cours au Saint-Siège à Rome. Pour en parler, nous recevons dans ce journal l'abbé Kanozire, vice-postulateur de la cause Munizira. Il est notre invité. Encore une fois, bonjour. Mais d'abord, cette nouvelle, les yeux des Congolais sont focalisés sur la prison de Makala, où la Cour de cassation de la RDC, siégeant en matière répressive, ouvre ce lundi le procès relatif au présumé détournement de fonds destinés à la construction des forages et à l'installation des lampadaires. C'est ce qu'indique l'extrait de rôle signé par le greffe pénal de cette haute juridiction. Deux prévenus vont comparaître ce lundi. Selon le même communiqué, il s'agit de l'ancien ministre du Développement rural, François Rubota, et Mike Kasenga, patron du consortium Steve Construct Cameroun SRL, et Sotrad Water Nicolas Kazadi, ministre des Finances, à l'heure des faits, n'est pas convoqué par la justice. Nous y reviendrons. Nous le disions depuis ce matin, l'enclave de Kamandingité, désormais sous contrôle du M23, cette localité située sur les rives du lac Édouard, à 10 km de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero, est occupée par ces rebelles depuis ce dimanche après une offensive lancée aux petites heures de la matinée. Il faut dire aussi que cette localité revêt d'une importance stratégique et économique, comme l'explique Martial Papi Mukeba dans ce reportage.
Kamandingité est un point d'accès lacustre qui relie plusieurs villages situés au bord du lac Édouard, dont la localité de Kavinyongé dans les territoires de Beni. Depuis Kamandingité, il est possible de rejoindre la localité de Kassindiport, offrant ainsi un passage vers la frontière stratégique de Kassindi-Lubiria. Ce point permet également d'accéder à Kiondo et au centre de Lubero pour atteindre la région du Graben dans les territoires de Beni. L'occupation de Kamandingité et de Vichumbi par les M23 permet aux rebelles d'exercer une influence sur le contrôle du trafic sur les lacs Édouard, ce qui leur offre la possibilité de percevoir des taxes illégales sur des dizaines de milliers de pêcheurs. Les rebelles du M23 ont ouvert un nouveau front dans les territoires de Walikale et continuent leur progression dans celui de Lubero malgré des avancées dans les processus de paix de Luanda. Des experts de la RDC et du Rwanda ont convenu d'un plat de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR, un accord qui nécessite encore la validation des ministres des Affaires étrangères des deux pays lors de la prochaine réunion prévue le 16 novembre à Luanda. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Voilà, c'était Martial Papi Mukeba sur la chute de Kamandingité. Insécurité encore et toujours dans la même province. De violents combats opposent depuis la matinée de ce lundi des rebelles du M23 aux combattants FDP Ouazalendo autour de l'agglomération de Kaira, toujours au nord Kivu. Selon plusieurs sources dans la région, les rebelles M23 venus probablement de trois axes, notamment Kasopo, Boutale et Kirumbu, ont attaqué le centre de Kaira à l'aube. Ils auraient délogé dans la matinée les combattants de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains, ANCDH, de Jean-Marie Bonané sur la colline Bouimba. Ces sources soupçonnent ces rebelles, soutenus par le Rwanda, de vouloir avancer vers le chef-lieu du territoire de Masisi. Et puis coup dur pour plus de 11 700 déplacés vivant dans le site de l'ISP à Bounia. Ils sont sans assistance depuis près de 3 ans dans ce site de l'Ituri. D'après plusieurs témoignages recueillis sur place, ces personnes qui ont fui les exactions des miliciens depuis au moins 6 ans dans le territoire de Djougou vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ces déplacés perdus et attendant désespérément le rétablissement de la paix dans leur village d'origine disent être carrément abandonnés donné par le gouvernement. C'est un reportage de Sadiki Aboubakar.
Quand on entre dans le site des déplacés de l'ISP Bounia, ça sent la misère. Cette phrase est connue de tous ici. Des abris en lambeaux, dont certains faits avec des bâches datant de 2019. Pas de nourriture, ni de vêtements. La dernière assistance humanitaire est intervenue dans ce site il y a environ 3 ans. Samuel Ngouna, un enseignant, vient de passer une année et demie dans ce site.
Je n'ai jamais vu l'assistance depuis que je suis dans une ville où nous n'avons jamais été. Ça nous crée des problèmes. Le fait d'aller chercher et revenir, mais au village, à part l'enseignement, on vivait très bien.
Imani Sifa Georgine, une autre déplacée, déplore que les déplacés d'autres sites reçoivent régulièrement une assistance en vivres, mais pas eux.
Pourquoi les déplacés de Telega et Katoto sont souvent assistés et nous du site de l'ISP et Kigonze, on ne nous assiste plus? Et ce sont seulement les déplacés de Telega, Mbala, Katoto et Katirogo qui méritent de l'assistance? Que les autorités nous le disent. Et si c'est le cas, qu'ils nous garantissent la paix dans nos villages et organisent notre retour.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la CNR, Commission nationale pour les réfugiés, n'ont pas abouti. Bounia, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Voilà la même réalité vécue hélas du côté des déplacés de Kwamout vivant au site Malebo dans le Kwilu. Ces personnes crient aux conditions inhumaines dans lesquelles elles vivent à la suite des violences nées du conflit intercommunautaire Teke-Ayaka. Les installations hygiéniques dignes de ce nom n'existent plus car toutes sont déjà bouchées. Le nombre de ces déplacés est estimé à près de 1500, dont des femmes et des enfants selon François Taboukou, responsable du site. Il sollicite d'ailleurs l'intervention du gouvernement au micro d'Irène Mboma Luzolo.
Il n'y a pas de toilettes. Vraiment, les gens souffrent. Vraiment, surtout ça, chez nous, il n'y a pas de toilettes. Les voisins, ils commencent maintenant à refuser. Les derrière, là, derrière des toilettes, là, qui étaient des gens bouchés. Vraiment, c'est impossible d'arriver là-bas. Alors, on a demandé aux gens qui passaient, les gens qui viennent. Non, nous allons passer, mais jusque là, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de douches. Vous allez voir, on a commencé à faire ne fût-ce qu'un petit rien pour que les gens puissent prendre bain. Mais il n'y a pas de toilettes. D'autres, surtout les mamans, là, ce n'est que la nuit, hein, parce que la journée, il n'y a pas moyen de prendre bien la journée comme ça. Vraiment, c'est difficile. Je ne sais pas ce que vous diffusez, si les autorités écoutent ou bien ils sabotent ou ils prennent ça en considération. Mais les conditions, vraiment, c'est difficile. Ça nous amène de la maladie. Après la maladie, s'il n'y a pas de soins, ça doit toujours amener quelqu'un à la mort. Il y a des femmes enceintes, il y a des femmes qui allaitent les enfants et toujours avec des conditions là, amères. Vraiment, à tout le monde qui m'écoute, le gouvernement, nous sommes là, au sud de Malebo. Vraiment, nous plaidons toujours au gouvernement de venir nous assister.
Rappelons que ça fait déjà plus de 2 ans que ces déplacés ont trouvé refuge à Bandoudouville, fuyant les atrocités de la milice Mobondo à Kwamout du Maïndombe. Les uns sont logés dans des familles d'accueil et d'autres au site de Malebo. La série des difficultés se poursuit cette fois à Kinshasa. C'est le désespoir total pour de nombreux habitants vivant à la frontière des quartiers Eradi et Ngafani dans la commune de Mongafula. Leur joie de vivre a laissé place à la tristesse depuis la pluie du 19 octobre. Ce jour-là, une partie du grand collecteur qui canalise les eaux sur l'avenue Tsanga Nord a cédé, créant une tête d'érosion. Depuis, ils n'ont plus accès à l'eau potable ni à l'électricité. Des pans des parcelles sont engloutis dans cette crevasse. Des parties de maisons suspendues dans le vide. Beaucoup quittent le coin, mais ceux qui restent, puisque ne sachant où aller, appellent à l'aide pour combattre cette érosion qui est encore à son début. Etienne Lissoumbou et Baben Pongo nous en parlent dans ce reportage.
Nous sommes sur l'avenue Tsanga Nord, ici. Depuis le 19 octobre, la terre continue de s'écrouler. De nombreuses personnes abandonnent leurs habitations, craignant pour leur vie. C'est le cas de Michel et sa famille.
Là, il y a érosion, ça découlait vraiment de tout un ramassis de quartier. C'est pour ça que nous sommes en train de toller, parce qu'il n'y a pas moyen encore d'habiter à Célia ici.
Autre problème, depuis cette pluie, cette partie n'a ni eau de la régie des eaux, ni électricité. Mais bien au-delà, un autre danger les guette. Pierre Yembi, promoteur de l'école Le Canon.
Il y avait tout au long de ces gros collecteurs d'eau. Il y a des tuyaux d'eau, il y a eu des poteaux de la SNEL, tout est parti. Alors, un sérieux problème encore, la grande route, s'il vous plaît, bypass, qui amène Kinshasa, Congo central, c'est 100 mètres. Maintenant, nous avons un grand problème encore, c'est la pylône. Haute tension de la SNEL, c'est 10 mètres.
Le bourgmestre de Selimbao appelle ses habitants au calme, rappelant que ce grand collecteur d'eau reliant les communes de Mongafula et Selimbao a été construit en 1981.
Au Kasaï central, la nouvelle société civile congolaise attend voir dans le budget 2025 sous examen la prise en compte des projets en souffrance d'exécution dans la province. Dans une déclaration faite lundi, le coordonnateur de cette structure, Albert Ngala Mouloumé, appelle les députés élus du Kasaï central à s'impliquer et surtout à se battre pour l'électrification de la province et pour la réhabilitation de routes pouvant la désenclaver. Le courant passe mal entre exploitants miniers artisanaux du territoire de Wamba et le gouvernorat du Haut-Touélé. Ces exploitants miniers s'opposent à la mission d'inspection, d'évaluation et d'identification dans leur site envoyé sur ordre du gouverneur de province du Haut-Touélé, autorisant 3 inspecteurs de la division provinciale des mines à œuvrer sur place. Une des raisons de ce refus, c'est la crainte de voir leur carré minier être amputé au profit des autorités provinciales, disent-ils. Ils l'ont fait savoir au lendemain de la tenue de leur assemblée générale jeudi dernier à Bolé-Bolé, une entité située à plus de 100 km de la ville d'Issiro. Jacques Mokonkole nous en dit plus.
Évoquant les motifs de leur opposition à cette mission d'inspection, le président des exploitants miniers déclare que pareille mission ne peut s'effectuer que sur demande d'un exploitant intéressé. Une démarche contraire serait une violation des dispositions en la matière. Autre motif soulevé par Dieudonné Batikonde, c'est la crainte de voir leur carré minier être amputé au profit des autorités provinciales. En effet, selon leur expérience, dit-il, pareils cas se sont déjà produits avec le gouvernement antérieur. Deux de leurs camarades ont vu les dimensions de leur site être amputé au terme d'une mission d'inspection dirigentée par l'autorité provinciale d'antan. Afin d'éviter toute surprise désagréable, les exploitants miniers artisanaux auraient souhaité la convocation d'une réunion en amont par l'autorité provinciale afin de leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette mission d'inspection, d'évaluation et d'identification des sites miniers. Si cela n'est pas fait, les exploitants miniers artisanaux de Wamba trouvent cette mission inopportune. Rappelons que le gouverneur de province du Haut-Touélé avait signé cet ordre de mission en date du 19 septembre dernier. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Élection à présent, c'est confirmé, les législatives provinciales et nationales annulées dans les territoires de Massimanimba et de Yakoma dans l'ex-Équateur sont fixées au 15 décembre prochain. C'est le résultat du calendrier réaménagé de la CENI. Dans ce dernier territoire du Nord Ubangi, Yakoma donc, plusieurs voix s'étaient levées pour décrier la léthargie autour de ces scrutins. Mais depuis le lancement des opérations par la porte-parole de la centrale électorale, la population se dit maintenant convaincue qu'il y aura réorganisation de ces élections car le processus en marche se déroule normalement, a reconnu le président de la société civile de Yakoma. Jean de Dieu Ouluoulou donne des précisions au micro de Paul Richard Malengela.
Avec l'arrivée de son Excellence Madame le rapporteur de la CENI depuis le 24 octobre 2024, la population de Yakoma est convaincue qu'il y aura la réorganisation des élections des députés nationaux et provinciaux. Parce que quand Madame le rapporteur a lancé les opérations pendant la grande réunion des cadres de concertation, sur le terrain, il y a les cartographes qui sont allés récolter les données. Il y a aussi le recrutement des sensibilisateurs au niveau du village. Il y a l'affichage de listes électorales dans chaque bureau de vote et l'antenne. Et les duplicatas de cartes illisibles sont en train d'être délivrés à l'antenne et au bureau du secteur. Donc, voyant toutes ces opérations, cela nous fait croire que le calendrier réaménagé par la CENI sera respecté et nous attendons la suite.
Actualité internationale.
L'armée israélienne a annoncé ce lundi 4 novembre avoir éliminé un commandant local du Hezbollah dans le sud du Liban où elle mène une campagne de bombardement intense et d'incursion terrestre contre le mouvement islamiste libanais. L'armée a frappé et éliminé Abu Ali Rida, le commandant de la région de Barachit dans le sud du Liban, a-t-elle indiqué dans un communiqué.
L'invité.
28 ans jour pour jour depuis l'assassinat de l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Moussi Hiroa Mwenengabo Christophe, le 29 octobre 1996, en plein centre-ville de Niawera, à Bukavu. La cause de sa béatification est en cours au Saint-Siège à Rome. Pour en parler, nous recevons dans ce journal l'abbé Kanosire Boniface, qui fait le suivi en sa qualité de vice-postulateur de la cause Mundi Hiroa. Il s'entretient ici avec Jean Kassami.
Abbé Boniface Kanosire, bonjour.
Bonjour Jean Kassami.
L'archidiocèse de Bukavu a commémoré les 28 ans depuis l'assassinat de Monseigneur Mundi Hiroa. Vous avez introduit un dossier pour demander que Mundi Hiroa soit béatifié. Peut-on savoir comment évoluent ces dossiers-là?
Oui, nous avons introduit les dossiers au niveau des Saint-Sièges. Pratiquement en 2021 que nous avons commencé la phase romaine, après avoir terminé ce qu'on appelle la phase diocésaine. Mais quand on compte les années, Rome prend la phase diocésaine comme une phase préliminaire. Et donc, il ne faut pas compter comme si la cause a commencé en 2016, même si c'est à ce moment que nous avons commencé les travaux. Mais il faut comprendre que la cause a commencé en 2021, à partir du moment où elle a été acheminée à Rome. Bon, la cause évolue bien. Nous n'avons pas jusque-là eu d'obstacle pouvant nous faire penser qu'il y aurait quelconque blocage par rapport à la cause. Je suis en contact avec le père Sylvestre Chebolada, qui est d'abord le postulateur général de la Compagnie de Jésus, donc des Jésuites, donc qui suit toutes les causes des Jésuites au monde, mais aussi qui suit la cause de Mundi Hiroa, lui-même qui fut Jésuite. Et le père est optimiste, il dit que la cause avance. L'unique souci que nous avions a été levé, il fallait réunir une affaire de 183 écrits, comprenant alors des lettres personnelles, comprenant des lettres pastorales, comprenant des brochures, comprenant des livres, comprenant des revues, parmi lesquelles ce que Monseigneur a écrit, on appelle ça scriti editi, et ce qu'on a écrit sur Monseigneur, scriti non editi. Et donc il fallait réunir cela. Nous avons fait un effort pour consulter les grandes bibliothèques de la place, bibliothèques ecclésiastiques, à savoir la bibliothèque d'abord du Grand Séminaire Théologal de Moressa, la bibliothèque du Collège Alfagiri, des archives de la Kiri diocésaine à Bukavu, la bibliothèque des Jésuites à Lubumbashi, la bibliothèque des Jésuites à Kinshasa, mais aussi les archives diocésaines de Kasongo où il a vécu. Et jusque-là, nous n'avons réuni que, je crois, 113 écrits de Mundi Hiroa et sur Mundi Hiroa. On nous disait qu'il restait encore autour de 70. Alors là, on commençait vraiment à avoir un peu des soucis, parce que Rome tenait à ce que tout ce qui a été dit sur Mundi Hiroa, il les trouve. Et tout ce que Mundi Hiroa a écrit, pour voir s'il n'y a rien contre la foi et la morale.
Alors, monsieur l'abbé Kanosire, tout marche comme sur des roulettes.
Le postulateur nous a donné une bonne nouvelle pour dire qu'il a pu travailler pendant tout l'été avec trois confrères jésuites. Et il y a des documents, même des sources intéressantes à la cause, qu'il a pu découvrir à Rome et dans les archives de la Kyrie jésuite et qui lui a permis suffisamment d'avancer. Et donc jusque-là, il est en train de faire un rapport sur les écrits de Mundi Hiroa. Après les avoir analysés, ces rapports, il va les présenter, n'est-ce pas, au rapporteur général de la cause. C'est un spécialiste en histoire et archivistique nommé par Rome pour accompagner la cause. Parce que quand Rome trouve que la cause est sérieuse, il nomme quelqu'un pour pouvoir l'accompagner et aussi pour pouvoir enlever les doutes ou les difficultés éventuelles.
Peut-on comprendre par là, monsieur l'abbé, que la cause Mundi Hiroa est à sa phase terminale?
Maintenant, c'est à la phase terminale. Nous avons des phases. Il y a la phase diocésaine qui est terminée depuis 2018. Maintenant, il y a la dernière phase, la phase romaine, au cours de laquelle il doit être proclamé martyr. Mais comme j'ai dit, pour proclamer quelqu'un martyr, on doit voir tout ce qui a été écrit par lui et tout ce qui a été dit sur lui et on doit tout analyser et interroger tous les témoins.
Une fois proclamé martyr par les Saint-Siège, est-ce que cette proclamation pourrait influer quelque part pour que la justice transitionnelle soit très bien suivie par la communauté internationale?
Nous, on ne regarde pas du côté de la justice transitionnelle. La proclamation de quelqu'un comme martyr est un événement ecclésial, pastoral et spirituel d'abord.
Monsieur l'abbé Kanozire, je vous dis merci.
Merci pour Radio Okapi.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, à Élisée Chikota et à Polydor Basunga.